RMC.
I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season.
Le Super Football Show.
We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Louis Tour.
C'est la deuxième heure de l'after avec Pierre Ducrot.
Je suis là.
Et avec Daniel Riolo. Non, mais attendez, faisons un plan sur BFM Sports.
Il est parti où, Daniel?
Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est incroyable.
Il est parti où, Daniel?
Il devait penser qu'on avait une longue pause et tout, mais c'est incroyable.
Bah, bravo.
Puis il revient tranquillement avec son verre d'eau là. Non, mais c'est quand même exceptionnel, hein. Alors que l'after est totalement bancal sans son pilier, sans Daniel Riolo. On est obligé de meubler jusqu'à ce qu'il arrive.
Ah, mais là, faut pas que tu dises ça. Faut pas que tu lui fasses comprendre qu'il est indispensable, justement, quand il s'en va. Si t'es l'institution, là, c'est toi qui représente l'institution, l'autorité, tu peux lui dire, Daniel, tu attends 5 minutes, tu reviendras quand tu auras une coupure, etc.
Est-ce qu'il est allé mettre un like à quelques autres émissions,
ouais,
là?
J'ai l'impression. Ah, il a fait un like à Ruquier, on n'est pas couché tout à l'heure, à 22h.
Ah ouais,
je l'ai très mal pris, mais on va régler ça.
Là, c'était pas un like, c'était le like et le commentaire.
Du tout ce qui s'est passé. Donc, Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Daniel qui avait très soif.
On est là.
Donc voilà. Les drôles de dames sont avec nous, vous avez entendu Simone Rovera.
Ouais, j'étais là. Ciao, bonsoir, bonsoir.
Voilà. Non, mais j'aime bien quand tu le fais bien, ton. Ciao,
ouais, c'est vrai que tu l'as pas fait. Bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Voilà, magnifique.
Ah, c'est mieux.
Philippe Ocker est avec nous en Angleterre. Salut, Philippe.
Good evening, my dear.
Fred Hermel en Espagne. Classe. Salut, Fred.
Hola, chicos.
Et David Lorto en Allemagne. Salut, David.
Hello, Freunde. Salut, messieurs. Salut à tous.
Vous êtes fidèles au poste. Hein. Vous n'avez pas abandonné votre chaise là pendant quelques minutes. Et ça fait plaisir. Voilà. Tous les lundis, les drôles de dames sont là, évidemment. Avec leurs avis tranchés, avec l'actu du week-end dans leurs pays respectifs, avec vous également. Au 32-16, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Demain, Real Bayern, demi-finale retour de Ligue des Champions. Sunny.
Ouyouyouy.
Quand c'est un simple ouyouyouy.
C'est du match, ça, demain, hein.
Avec toi,
un combat de poids lourd.
Avec toi au stade, Fred.
Ah bah oui, et aux commentaires.
Oh là là, ça c'est parfait pour réapprovisionner nos jingles. Là.
Je pense que demain là, il y a de quoi faire. Il y aura de quoi faire.
Voilà. Bah tiens, Fred, on y va tout de suite avec toi. Premier avis tranché du soir en Espagne. Jingle Hermel.
Fred Hermel, demandez-lui la simulation. Ça l'a pas toujours gêné.
Oh, à l'époque où vous parliez, c'était sympa, Daniel et Fred.
Mais non, ouais. Mais c'est réglé ça.
Ah bah voilà. Jusqu'à.
Jusqu'à maintenant.
Jusqu'à minuit.
Jusqu'à oui, bah c'est ça.
Jusqu'à 23h20. Quand je vais le tancer une nouvelle fois.
Alors, on va voir si tu vas le tancer sur son avis tranché du soir qui concerne donc le Real.
Ah bah, c'est pour ça que je préviens.
Ah oui, c'est bien.
Alors, je pense sincèrement que le Real Madrid va se qualifier pour la finale, pour sa troisième finale en 3 ans. Mais je pense aussi, et c'est un avis qui m'est inspiré de l'intérieur du Real Madrid et du staff technique, c'est que le Real va suer sang et eau demain. C'est-à-dire, je sais pas, faut que je fasse attention à ma voix parce que il y aura peut-être vraiment une possibilité de prolongation. Je peux vous assurer, parce que c'est un avis qui se veut informatif aussi, quoi. C'est-à-dire que, au niveau du Real Madrid, ils pensent que la finale de la Ligue des Champions, c'est demain soir. Que celui qui va se qualifier sera champion le 26 mai. Ils pensent que...
Oula, ça c'est hasardeux comme réflexion.
Non, mais c'est une façon de jouer le match comme il faut.
Voilà. Le côté, c'est-à-dire que la finale, demain, le 2-1 de l'aller n'existe pas. Vraiment. C'est-à-dire que de la manière dont on préparait les Madrilènes ce match, c'est que ça commence à 0-0 et c'est pas qu'un message de communication comme ça pour le public. Non, ils pensent vraiment que le Real Madrid va devoir construire sa qualification demain comme si il n'y avait pas ce 2-1 très avantageux de la semaine dernière à Munich. Il y a un gros problème au Real, c'est-à-dire que il y a quand même l'absence d'un latéral qui s'appelle Carvajal. Nacho a repris l'entraînement dimanche, mais connaissant Zidane, c'est très difficile pour lui de risquer un joueur qui revient de près d'un mois de blessure musculaire en plus. Donc a priori, ce serait Lucas Vázquez, latéral droit, ce qui pourrait provoquer, puisque c'est pas son métier, hein, c'est un ailier droit, hein, Lucas, un gros danger sur des attaques du Bayern, et après Lorto nous expliquera qui pourrait en profiter à ce niveau-là. Isco, qui est comme l'un des joueurs majeurs de cette saison, est blessé. Lui, il n'est même pas convoqué. Il a une entorse à l'épaule, qu'il a prise d'ailleurs la semaine dernière à Munich, puisqu'il a dû être remplacé à la mi-temps. Donc, je peux vous assurer que s'il y a du côté du Real Madrid beaucoup de sérénité, parce que ils adorent ce genre de moment, ils se préparent aujourd'hui pour ce qui est pour eux la finale, une finale à construire dès le début. et ils ont le sentiment, et c'est celui que nous ressentons, nous qui suivons le Real au quotidien, et que je ressens personnellement, c'est que oui, le Real va se qualifier, mais que ce sera hyper dur, et je répète ce que j'ai dit au début, le Real va suer sang et eau demain soir face au Bayern.
Pierre, Daniel.
Ouais, moi, je dis pas que c'est un effet de com. Je dis que c'est un effet de, c'est un moyen plutôt de rester très concentré et concerné sur effectivement un match qui va être très compliqué et ne pas mettre un peu la charrue avant les bœufs comme ça peut arriver parfois. Et je pense qu'après ce match-là, si tout se passe bien pour le Real, et ben on retombera dans effectivement le match le plus dur et le prochain maintenant. Mais voilà, c'est un moyen d'être préparé à ce qui attend le Real, effectivement, un match hyper compliqué, hyper difficile.
Daniel?
Moi, quand je vais au cinéma regarder un classique ou un grand film, je cherche pas à savoir ce qui va se passer et à connaître la fin, tu vois. Je lis pas les critiques avant, je cherche pas à connaître les rouages du scénar et tout ça. Donc un Real Bayern qui est un classique de la Coupe d'Europe, j'ai pas vraiment envie de savoir moi s'ils vont suer sang et eau. J'ai envie de voir le match. Après que les supporters du Real veuillent qu'on joue à le sort, ça va être dur, machin, que dans
le
club.
Non, c'est pas les supporters. Hein.
Ouais,
c'est
dans le club.
Je te parle de discussions que j'ai eues à l'intérieur du club et à l'intérieur du vestiaire.
C'est normal.
La métaphore avec le film, si je peux me permettre, la métaphore avec le film, c'est pas à la limite, c'est pas toi spectateur là. Enfin, Fred parle pas de toi spectateur du film. Il parlerait plutôt de toi réalisateur et qui met tous les moyens ou scénariste pour réussir ce match.
Le problème, c'est que j'attends de voir ce que David va nous dire parce que. Je sais pas quel genre d'équipe le Bayern va aligner demain. Ouais. Est-ce que Müller joue derrière Lewandowski ou sur le côté? On n'a pas encore tous les éléments du scénar justement.
On n'a pas les acteurs.
Donc c'est un petit peu compliqué. Ça...
Alors tiens Daniel, ce que je te propose,
c'est que qu'on me dise que c'est un défi. Oui, mais le Real démarre avec un résultat extraordinaire et la science de ce genre de match-là.
Ce que je te dis là, dans mon avis, c'est que je te donne aussi des informations. De moi, ce qu'on me dit en privé au sein du staff.
Mais eux, ils vont pas te dire qu'ils vont se balader. Hein. C'est normal qu'ils se mettent en état de petit flippage.
Non, mais en plus, ils sont là-dedans. Mais dans leur idée, c'est qu'ils savent que le Bayern va marquer. C'est-à-dire parce que ce Bayern-là, c'est quasiment impossible de pas prendre de but.
Non mais regarde. Donc, moi, si je suis au Real, voilà. Si tu me demandes l'avis d'un réalisateur, si je suis au Real, je me dis
Real réalisateur
en huitième sur le match aller. À la maison, pendant 80 minutes, l'adversaire a plus fait le jeu que nous. Mmh. On a quand même réussi à faire basculer le score en notre faveur, parce qu'on est le Real, parce qu'on sait gérer ce genre de situation, et on a un coach qui a fait les bons choix au bon moment. Le tour d'après, au match retour, alors qu'on a fait un carton à l'aller, on passe tout près d'une catastrophe incroyable et historique. Là, on joue le Bayern, l'année dernière on avait fait la même chose, et au match retour ça a été très compliqué. Mais évidemment que je reste prudent. Évidemment, maintenant, c'est une équipe qui maîtrise tellement ce genre d'événement que, comme Fred, je la vois passer. Je la vois passer, évidemment. Le résultat est extrêmement favorable. Ils ont tous les atouts. Bon, effectivement, ne pas avoir d'arrière-droit, être obligé de mettre un mec qui est attaquant sur ce côté, ça peut poser un petit problème, mais j'ai pas le reste des acteurs, et je sais pas comment le Bayern va
avoir. Je veux pas foutre le bordel, mais j'ai l'impression que Daniel dit que l'avis de Fred ne sert à rien, finalement.
Si, non.
Ce serait pas la première fois. Et sache
Pierre qu'il y a pas besoin de foutre le bordel entre les deux. Et ça, il débrouille très bien tout seul.
Et il y a pas besoin qu'on lise entre les lignes, si ça avait été le cas, je l'aurais dit.
Tu aurais dit.
C'est vrai aussi, ça.
Bon, alors, tu veux le reste des acteurs, tu veux le reste du casting, Daniel, on y va, jingle l'Orto. Je rappelle que l'Orto porte Gilbert. Toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et David, donc, tu veux nous parler de l'équipe du Bayern qui débutera demain. Je précise qu'on fera le reste de l'actu en Espagne et en Allemagne juste après, mais avis tranché sur le Bayern.
C'est très bien.
Absolument. Alors, un avis tranché qui va concerner, et ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, mais vous allez comprendre mon raisonnement qui est finalement assez simple, va concerner Corentin Tolisso. Tiens, Corentin Tolisso, ça fait à peine un an qu'il est au Bayern, et vous allez voir que demain, d'une façon ou d'une autre, ça va être le joueur clé, ça va être le joueur qui va faire gagner le Bayern. Je précise, avant d'expliquer mon propos, que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Fred, y compris dans le scénario d'une prolongation qui me paraît, sinon probable, du moins possible. Comment est constitué le système défensif du Bayern théorique? Manuel Neuer. Neuer n'est pas là. Alaba, Hummels, Boateng, Kimmich. Alaba devrait jouer demain, c'est une super bonne nouvelle pour le Bayern, mais il est convalescent. Hummels va jouer évidemment demain, mais ça n'est pas le Hummels rayonnant qu'on a connu, notamment contre un certain Varane contre l'équipe de France. Donc Hummels, ok, il est indiscutable, mais il n'est pas à son top niveau. Ça fait déjà 3 joueurs sur les 3 que je viens de citer qui sont soit absents, soit pas à leur top niveau. 4e joueur, Boateng, blessé à l'aller, ne sera pas là. Remplacé par Zule, super joueur, un jeune, 22 ans, un colosse, il a montré qu'il était capable. Ok, mais c'est un ersatz, comme on dirait en Allemagne, c'est un remplaçant de Boateng. Et puis Kimmich, ok, Kimmich très bien, il a marqué à l'aller, super. Et devant ces 5-là, donc Neuer plus les 4, Javi Martinez, lui évidemment sera présent demain, puisque même s'il
avait
été touché
un peu déçu à l'aller.
Ouais, exact. Mais justement... C'était pas le top Javi Martinez qu'on a pu connaître. Ça fait quand même beaucoup dans le secteur défensif par rapport à ce que Henkes pourrait souhaiter de meilleur, et ses 6 de derrière, si on veut, le gardien, les 4 plus le milieu défensif théorique, ça fait pas grand monde en top forme. Et du coup, on pourrait revenir à un système plus classique en 4-2-3-1 avec bien sûr les joueurs que j'ai cités, donc Sven Ulreich bien sûr qui remplace Neuer, Kimmich à droite, Alaba à gauche, Mats Hummels et Niklas Süle, le jeune défenseur central, Javi Martinez bien sûr, devant Lewandowski est indiscutable, l'entraîneur a rigolé à une question de journaliste cet après-midi en conf de presse. Vous êtes sûr que vous allez mettre Lewandowski? Il a dit, mais excusez-moi.
Mais pourquoi, c'est quand même pourquoi Lewandowski. La question qu'il disait, le gars qui avait posé, pourquoi?
Parce qu'il y a des histoires.
Il est pas fort, Lewandowski, en plus.
Oui, il traîne son spleen, il est vraiment pas au top, mais il y a un passé suffisant, y compris contre le Real, pour Lewandowski, pour qu'on fasse confiance à ce joueur-là. Ouais. Et d'ailleurs, l'entraîneur a rappelé en conf cet après-midi sa pleine confiance en Lewandowski. Donc Lewandowski, Ribéry sur la gauche, Müller sur la droite, James Rodriguez au détriment de Thiago Alcantara, et donc Corentin Tolisso avec Javi Martinez. Pourquoi? Parce que...
Et qui jouerait côté Robben, donc ne revient non, pas
Müller.
Thomas Müller. Parce que Robben est un peu court.
Et donc Thomas Müller va à droite, c'est ça, d'accord.
Thomas Müller à droite. Alors, il y a une alternative évidemment, c'est la présence de Thiago Alcantara au coup d'envoi, mais il a été tellement nul, j'exagère un peu, je grossis le trait, mais il a été tellement nul à l'aller, notamment au moment de rentrée, que c'est plus probable sans doute de voir Corentin Tolisso. Et même si Corentin Tolisso rentrait en cours de match, pour moi, ça va être un joueur essentiel. Et je vais rapidement expliquer pourquoi. Figurez-vous que quand il est arrivé, c'est marrant parce que j'ai repris un peu mes archives cet après-midi pour vous parler de ce cas Tolisso. Quand il est arrivé, début août, avec le Bayern joue la Supercoupe d'Allemagne contre Dortmund. Et Uli Hoeneß dit, le président du Bayern, Corentin Tolisso est très utile à l'équipe. On est en août, il vient d'arriver. Corentin Tolisso est très utile à l'équipe, il a un bon caractère, se bouge les fesses et on peut s'appuyer sur des joueurs comme ça. Ah bah tiens, je me suis dit, ça c'est pas mal pour faire écho à sa possible présence demain. Corentin Tolisso, c'est 24 matchs cette saison, 4 buts, 7 matchs en Ligue des Champions, 3 buts. L'avantage d'un joueur comme ça, par rapport au souci de défense que j'ai indiqué à l'instant, l'avantage d'un joueur comme ça, c'est qu'il va être à la fois capable de mettre la semelle, et il n'y en a pas tellement au Bayern, c'est pas James Rodriguez qui va la mettre, c'est pas Thiago Alcantara qui va la mettre, c'est pas Thomas Müller, Lewandowski ou Ribéry. Tolisso pourrait être utile dans le sens défensif de la chose, mais aussi... Dans son apport offensif, c'est un joueur magnifique, capable de marquer des buts importants. Il l'a fait plusieurs fois cette saison, et je le rappelle, déjà 3 buts en Ligue des Champions cette saison. Donc voilà un joueur qui pourrait constituer le chaînon manquant pour stabiliser un peu le Bayern, à la fois supporter le fait qu'on soit à Bernabeu et qu'on soit donc à l'extérieur et qu'il faille s'attendre à défendre, mais aussi apporter depuis l'arrière un soutien supplémentaire à Javi Martinez qui est peut-être un peu seul devant la défense.
David, ça veut dire que le Bayern sera quand même un peu moins offensif que la semaine dernière.
Bah, c'est ma lecture, j'ai tourné le truc dans tous les sens là depuis 2 jours, et pour moi c'est comme ça que ça devrait démarrer. On est d'accord d'ailleurs entre confrères, puisque les médias les plus sérieux sont d'accord avec cette compo de départ. Évidemment, ça va se jouer entre Tolisso et Thiago Alcantara. Si c'est Thiago qui est présent au coup d'envoi, ça sera forcément un peu plus léché, un peu plus offensif.
Bon, bah, on verra si Tolisso répond présent à un grand rendez-vous comme ça. Effectivement, ça le poserait un peu plus aussi dans sa progression, et on parlait de l'équipe de France, ça nous servirait bien à un moment donné aussi.
Dans le seul secteur, on a plus de certitudes. C'est dommage.
Mmh,
oh, oui. Si, quand même.
Un peu plus.
Oui, un peu plus.
Pas non plus, c'est pas la folie non plus.
Bon, j'essaie de le faire croire. Folie.
On revient sur votre actu. En Espagne, le Barça est champion, Fred.
Oui, bah, on l'attendait, champion à la Corogne. Alors, c'est assez rare, mais on a eu la même soirée. La victoire du Barça, donc le titre de champion, et la défaite du Deportivo de la Corogne, c'est le Barça qui est 4-2, et la descente du Deportivo, qui est quand même un club historique.
Ah, le Deport redescend, là. Bah, ils étaient descendus ces derniers temps.
Ouais, c'est ça. C'est l'un des clubs qui fait le plus l'ascenseur entre la première et la deuxième division. Donc, c'est un peu triste, parce que c'est un vrai bon club, avec un vrai bon public, une vraie culture foot. Mais bon, il n'y a plus l'argent qu'il y avait du temps du Super Deport, avec les Bebeto, Mauro Silva, et etc., Fran, et etc. Et le Barça qui a fait un match...
Pas si vieux que ça, hein, quand ils font leur super remontada contre Milan, le Milan d'Ancelotti, c'est quoi, c'est 2004
C'est l'autre demi-finale.
Ah, exact, oui, bah oui, bien sûr, c'est l'autre demi-finale. Ouais.
Quand ils font 4-0 après le 4-1 de l'aller, c'est ça.
Ça fait quand même 14 ans, hein.
Non, bon, c'est
notre quart,
c'est vrai, ouais,
c'est quand même.
C'est vrai. C'était en quart, parce que en demi, il joue Porto.
Et le Barça, et le Barça était finalement, parce que c'est l'heure de faire un petit peu le bilan du Barça, c'est un doublé quand même. Ils sont invaincus au bout de 35 rencontres. Ça devrait être extraordinaire. Et pourtant, il n'y a pas une ambiance fabuleuse autour de ce doublé, parce que je l'ai déjà évoqué, si le Real Madrid se qualifie demain et gagne la Ligue des Champions dans 3 semaines, et ben ce doublé en Espagne, il sera un peu gâché par la grande fête madrilène.
Bon, après à Barcelone, ça les a pas empêchés de défiler.
Ah bah, heureusement, faire la fête, bah, attends, tu fais doublé, tu défiles, hein, c'est normal, hein. Mais bien sûr. Mais tu sais très bien, t'as vécu en Espagne, que le contexte de l'autre équipe compte énormément. Donc oui, bien sûr, ils sont contents. Après, le match d'hier était un petit peu représentatif de ce qu'a été la saison du Barça, où il a fallu encore un super Messi, parce qu'à un moment le Barça menait 2-0, s'est fait remonter à 2-2, et il a fallu un triplé de Messi pour que le Barça l'emporte. On a vraiment le sentiment cette saison, et c'est peut-être les reproches que font les supporters du Barça, qui sont très attachés au jeu extrêmement technique, extrêmement bien léché, avec une vraie identité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de matchs cette saison qui ont été gagnés par Ter Stegen, enfin grâce à Ter Stegen ou grâce à Léo Messi, avec un gardien super qui a arrêté beaucoup beaucoup de choses, qui a donné beaucoup de points, et un attaquant, enfin un joueur fabuleux, c'est pas la peine de le présenter, qui a marqué des buts quand tout était bloqué. Alors moi j'aime beaucoup Valverde, je l'ai dit, j'ai déjà fait un avis tranché sur lui. Il a démarré dans des conditions très compliquées. Et pour terminer ce petit point sur le Barça, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de chance. Parce que c'est quelqu'un qui a une humilité qui permet de faire de grandes choses. Quand on lui a demandé hier ce qu'il avait fait lui pour permettre au Barça de faire un doublé, qui est quand même quelque chose qui rentre dans l'histoire, il a dit « j'ai essayé de pas trop déranger ».
Ouais.
Je vous laisse réfléchir à cette phrase. « J'ai essayé de ne pas trop déranger ». C'est à double tranchant, mais ça veut dire aussi l'intelligence d'un entraîneur qui arrive dans une équipe qui est faite quand même s'il y a des défaites par le départ de Neymar à Paris, mais qui arrive à ranger les boulons, etc., et surtout à ne pas trop déranger, à laisser ce qui marche encore marcher, quoi. Mais ça sera intéressant, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de discuter un peu plus, mais un entraîneur qui dit « j'ai essayé de ne pas trop déranger », ça prête à plusieurs lectures, et moi je veux faire une lecture positive de ce qu'a fait l'entraîneur basque du Barça.
Juste Fred, regardons le match quand même, l'entente qu'il y a eu entre Luis Suarez et Messi hier soir, c'est quelque chose que tu avais vu pendant le reste de la saison? Parce que moi ça m'a séduit, enfin, genre, les combinaisons sont sublimes.
Enfin, ça fait longtemps déjà. Bah oui, parce que Suarez, en plus, qui a quand même une forte personnalité, il sait se mettre au service de Messi. Ouais. Et oui, c'est ça, parce qu'il a compris ça. Et Messi, et lui, ça le dérange pas. Neymar, ça le dérangeait de servir de Messi. C'est pour ça qu'il est parti. Enfin, c'est l'une des raisons de son départ. Suarez,
oui, ça se voit qu'ils s'entendent bien les deux.
Oui, et puis en plus ils sont très amis, etc. Donc là-dessus,
pourquoi Montella s'est fait virer? Je passe à Séville, Fred, là, pour avancer un peu.
Bah, tout simplement parce que
les résultats du moment.
Bah, Séville essaye a encore une chance de se qualifier pour la Ligue Europa. Quand tu viens de faire quart de finale de la Ligue des Champions et que tu vas peut-être te retrouver sans rien à faire le mardi, mercredi et dans ce cas le jeudi, bah ça la fout mal pour un des plus gros clubs d'Espagne. Donc on a l'impression qu'il y a de nouveau une fracture au sein du vestiaire, que Montella avec les joueurs, ça marche plus trop, alors que ça a marché pendant quelques mois. Enfin,
quand ils sortent Manchester,
mais ça s'est vite dégradé, les résultats sont catastrophiques. Perdre à Levante, qui est une équipe qui d'ailleurs s'est sauvée grâce à cette victoire contre contre Séville. Donc c'est Joaquim Caparrós, mythique.
Voilà. Va peut-être revenir, Emery.
Non, pas Séville. Non, Emery, on parle beaucoup de la Real Sociedad. Hein.
Ouais.
Et il aime beaucoup. Hein. Ce serait d'ailleurs un très bon club pour
lui.
C'est chez lui. Puis c'est un club historique de la Liga. C'est, je veux dire, c'est pas. C'est pas ce que représente Paris aujourd'hui en Europe, mais c'est-à-dire que dans le contexte espagnol, entraîner la Sociedad, c'est bien.
C'est important.
C'est important. Enfin, je veux dire, c'est pas le Rayo Vallecano, quoi, tu vois, ou même les Ventés. C'est Joaquim Caparrós qui est un vieil entraîneur tout terrain de la Ligue espagnole, qui avait été un bon entraîneur à Séville, qui vient essayer d'arranger les bidons pour les trois journées qui restent, en essayant d'attraper la Ligue Europa. Surtout que le rival, parce que le vrai rival de Séville, c'est le Betis. Le Betis, avec sa vitesse, la victoire ce soir 2-1 contre Malaga, est d'ores et déjà assuré de jouer l'Europa League. Et là, j'ai fait mon avis tranché l'autre jour sur eux. Moi, ça fait plaisir de savoir parce que ça va être coloré. Hein. Les jeudis soirs vont être très très sympas du côté du Benito Villamarine, le stade des Betis.
Pour accrocher l'Europe, Fred, c'est quoi? C'est la sixième place ou la septième? Septième?
En Espagne, c'est la cinquième et la sixième. Cinquième et sixième.
Ah, c'est pas gagné, hein, putain.
Bah, il y a quoi?
Il y a Villarreal. Il y a même Retafe qui
passe. Il y a 6 points de retard.
Ah ouais, c'est.
Mais surtout, ils sont.
Non, mais pour Séville,
ouais.
C'est.
Alors, après Séville, ils ont encore 4 matchs parce qu'ils ont le match contre Real Madrid en retard. Donc, il y a encore une chance pour Séville de. Mais, Villarreal, pour la dernière place.
C'est compliqué quand même.
Séville, ça fait quand même 6 points, hein. Voilà, c'est.
Il y a la place de la Coupe du Roi qui revient en 7ème, non?
Ah, là, je t'avoue, je ne sais pas.
Ils sont droit en Europa League. Pourquoi l'Espagne devrait avoir?
Parce que le Séville n'est pas qualifié pour. Attends, que je dis pas de conneries.
Ouais. Bah, dis rien alors.
L'OM
était éliminé.
Vous voulez savoir quoi, les gars? C'est pour la Champions League l'année prochaine?
Est-ce que Séville peut se qualifier encore pour la Coupe du Monde?
Est-ce que l'Italie peut être repêchée à la Coupe du Monde?
Il n'y aura pas de 5e club espagnol avec des champions, puisque le seul concurrent de Ligue Europa qui peut accrocher cette place, c'est l'Atlético, qui est déjà qualifié par son classement en Liga, donc voilà. Bon. Mais bonne question,
on va se pencher sur la question.
Oui, sur le cas. Enfin, c'est pas le truc le plus important de la soirée,
mais quand même.
On aura la réponse
avant minuit. Hein.
David, laisse-moi jusqu'à. Attends, demain j'ai un gros match. Hein. On en parlera mercredi.
Oui. David, on a fait ton avis tranché. Quelques infos allemandes.
Oui.
Donc tu voulais revenir sur la descente de Cologne.
Ah bah oui, il faut quand même en dire un mot. Bah
alors, tu nous mets pas au parfum de ça.
Justement. Ouais. Si, mais j'ai eu l'occasion de le dire de façon assez marginale, c'est vrai, cette saison, mais Cologne a eu avoir quelques soubresauts et se redresser de temps en temps. Il était trop loin des 17 clubs qui le précèdent. Cologne dernier, nouvelle descente.
Cologne, c'est pas un joueur français qui est allé là-bas, là.
Mais pas Modeste?
Non, pas du tout. Là, au château d'hiver, un joueur français qui est allé à Cologne. Mais si, voyons.
C'est une blague ou?
Cosiello n'est pas allé à Cologne? C'est le club qui est monté le plus souvent, je crois, 6 fois, hein, de deuxième en première Bundesliga.
C'est le club qui est descendu souvent aussi, quoi.
Aussi, mais le vice-président.
Le club de Pavard, il est classé combien? 8e, le club de Pavard.
Il s'en fout, Daniel.
Laissons finir, David.
Pavard, il est avec qui?
Il est pas avec Daniel. On a encore le temps. Non.
Non, arrêtez, s'il vous plaît.
D'accord. Cologne, c'est important, messieurs, parce que on est capable à Cologne de remonter d'une saison sur l'autre. Et d'ailleurs, il faut le souligner parce que c'est pas si fréquent dans le football. Les deux piliers de cette équipe, qui sont le gardien Timo Horn, l'un des possibles pour la Coupe du Monde, même si maintenant il a pris un peu de retard, et le latéral gauche Jonas Hector, qui lui sera à la Coupe du Monde, tous les deux ont re-signé et continueront de jouer avec ce club la saison prochaine en deuxième division. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner.
C'est un bon signe.
Jonas Hector.
Il va aller jouer en deuxième division.
Jonas Hector, il est
gauche de l'Allemagne.
Oui, absolument.
C'est pas vrai. Il est bon en plus, ce joueur. Ouais.
C'est déjà arrivé 8 ou 9 fois dans l'histoire qu'un joueur de deuxième division joue avec la Mancha.
Bah, Max Bossis et Thomas Traracing, hein, il était à la Coupe du Monde.
Bah, il y en a quelques-uns, mais c'est à souligner.
C'est un peu plus lointain, quoi.
Bah, c'est un peu plus lointain, c'est un des meilleurs arrières latérales qu'on ait jamais eu dans notre football. Oui.
Et alors, ce qui est un peu curieux, hein, connaissant de Cologne, c'est que...
Max Bossis? Ah bah, si tu me cites trois arrières latéraux qui ont été meilleurs que lui dans l'histoire de notre foot, alors là, je t'attends, hein.
Amoros.
Ça fait un, après.
C'est pas mal déjà.
Ça fait un.
Lisa, après, Lisa. Ah non, il joue à gauche. Il joue à gauche.
Et bah, Bossis, il a commencé à gauche et après il était central.
Gauche-droite confondu.
Central, mais
Bossis, moi je le vois plus dans l'axe central en plus.
Il a commencé latéral gauche et il a ensuite joué dans l'axe. Il a fait les deux postes. Mais cite-moi trois mecs en France qu'on a eu meilleurs que lui en défense, je t'attends, mais je pense que tu trouveras pas. C'est une blague ou quoi?
Daniel Alves.
En français.
International français.
Je réfléchis. Lisa, mais Bossis, il le mange au petit-déj avec des biscottes.
Dimeco.
Mais ça va pas. Mais demande même à Eric. Eric, il te le dira.
Je sais pas, je te balance des noms, moi. Après, tu regardes ce que tu veux.
Je
t'ai cité à Moro, c'est déjà bien.
Il y a que lui.
Thuram, non?
Thuram, il veut pas.
Thuram latéral.
Ah, Thuram, bah, il a fait
mais
des matchs
pas,
bah,
ou quoi
en Coupe du Monde, il fait des matchs.
Les mecs sont champions du monde, mais ça vaut rien. Il fait des matchs sur un côté, ils sont nuls. Hein. Très bien.
À droite, je te dis pas que sont nuls, je te dis qu'ils sont très loin, très loin de Bossis.
Je pose une question là.
Non, mais là, je veux sortir. Non, mais Bossis, c'est Max Bossis, c'est Philippe. Philippe, tu dors ou quoi?
Non, je vous écoute.
Tu avais dit quelque chose, toi, tu sais.
Mais moi, pour moi, le grand Max, je l'imagine toujours plus à l'air central.
Oui, moi aussi, Philippe. Mais je vous dis que je le mets central, mais il a joué également latéral.
Mais d'accord, mais bon.
Dans France-Allemagne, il joue. Dans France-Allemagne,
Thuram alors. Thuram, il joue central, il a joué latéral.
Mais déjà, c'est un latéral, c'est pas un vrai latéral.
Et ben, c'est pareil.
On l'a placé là.
Est-ce que t'es une mauvaise foi quand on parle de l'histoire du foot là? Tu vas absolument avoir
de
raison
mauvaise
sur
foi,
des trucs.
Mais tu vas pas me comparer
sur
le
mauvais
foot
l'histoire.
Bossis avec
Thuram. Je t'avoue que Bossis, c'est même chez moi. Pourquoi on en est là?
J'étais jeune, mais je t'avoue que Bossis, l'image que j'ai, moi, c'est Bossis, c'est Trésor, c'est Leroux, c'est l'axe, tu vois, c'est la solidité dans l'axe.
Voilà.
Je le vois moins sur le côté.
Il a fait moite-moite dans sa carrière.
Moite-moite.
Oui, bah voilà.
Comme Thuram aussi, il a joué aussi bien à droite qu'arrière gauche. Il a joué arrière droite et arrière gauche.
Oui, mais
laissez-moi vous informer. Non,
David, on peut plus rien laisser à personne.
Quand même.
Est-ce que tu te rappelles au moins pourquoi on arrive à cette discussion?
Bah Hector,
Jouer avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec les drôles de dames, Simone Rovera, David Lorto, Philippe Auclair, Fred
Hermel. J'ai l'info, hein.
Oui, alors attendez, messieurs, il nous reste une demi-heure d'after. J'en appelle à la plus grande discipline vous concernant pour que tout le monde soit heureux à la fin, pour qu'à minuit, j'ai pas des appels des uns et des autres pour dire « j'ai parlé que 5 minutes, j'ai parlé qu'un quart d'heure, j'ai parlé de machin et tout. Daniel, il nous a coupé. Daniel est insupportable, etc. » Donc, faisons en sorte que...
Bah non, mais ça, c'est l'appel classique que je te fais tous les lundis soirs, ça.
Fred, tu t'en fous, t'es payé le même prix de merde si tu parles 5 minutes.
Alors...
Et pas beaucoup d'ailleurs.
Non, mais
simplement. Et la conscience professionnelle, monsieur. Je réponds par rapport à l'histoire de Séville, j'avais raison. Alors, Simone Rovera, avant d'accuser les gens, regarde, parce que pour l'Italie comme pour l'Espagne, le 7e n'est pas qualifié. Il doit passer 2 tours préliminaires.
Ah, d'accord, ok.
Va jouer quand même. Ok.
Voilà. Mais le 7e, attends, c'est pas pareil, t'es pas qualifié directement pour
alors
pour
très bien. Non,
ça c'est vrai.
Voilà, c'est pour ça.
Ensuite,
voilà.
Avant,
voilà, Simone.
Le séisme, Maxime Bossis. Le séisme, y a-t-il 5 meilleurs latéraux que Bossis? David nous parlait de Cologne. Bon, on a fini sur Cologne, non David?
Oui, alors simplement pour dire que c'est marrant parce que Cologne fait l'ascenseur vers le bas. Cologne fait l'ascenseur vers le bas au moment où une ville qui est Düsseldorf, une jolie petite ville du nord-ouest de l'Allemagne, monte qui est à quelques kilomètres de Cologne. Düsseldorf qui monte pour la 6e fois.
Aussi remonte, non, Charmant Daniel, ville. Tu vas le laisser d'accord. finir des phrases, d'accord, s'il te plaît.
Düsseldorf qui monte pour la 6e fois avec un entraîneur qui lui aussi monte pour la 6e fois. C'est un record absolu évidemment en Allemagne. C'est la légende Friedhelm Funkel, alors pas très connu en France, mais qui fait monter Düsseldorf pour la petite histoire. Et sachez que puisqu'on parle de Cologne, puisqu'on parle d'un club mythique
David,
avec Cologne,
David, je veux bien me battre pour toi, mais faut m'aider un peu.
C'est pas chanteur.
Bah, j'essaye, hein.
Si, Brad Friedhelm, bon, il était gardien de but en Angleterre.
Allez,
non.
David,
si, c'est
Cologne qui descend, c'est que c'est la meilleure ambiance de Bundesliga. Je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Et il y a un autre poids lourd du foot allemand qui descend, qui était champion il y a 20 ans. C'est Kaiserslautern qui descend deuxième en troisième division.
Oh, champion il y a 20 ans.
de Youri Djorkaeff, absolument. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup de bruit en
Allemagne. Ils ont été champions, d'ailleurs.
Les Diables Rouges,
90,
quatre fois.
Kaiser Soze, là.
Alors, 51, 53, 91, 98.
30 secondes pour dire un mot sur Reus et Götze qui se réveillent à Dortmund.
Oui. Alors, il y en a un qu'il va falloir suivre, parce que Dortmund jouait le Werder Bremen ce week-end et n'a fait que un partout. Il y en a un qu'il va falloir suivre, c'est le milieu de terrain danois Thomas Delaney, qui va faire des misères à l'équipe de France pendant la Coupe du Monde, je vous l'annonce.
Mais alors, en plus d'Eriksen, disons que ça fait deux. Alors.
À côté de ça, à Dortmund, on est en train de retrouver Götze, qui retrouve un peu la forme. Et je me suis fait un peu rudoyer par les tweetos ce week-end, parce que pour moi, il n'est pas encore du tout à son top, Mario Götze, mais il revient bien. Et Marco Reus, encore fabuleux, formidable, magnifique ce week-end, dont on ne peut que souhaiter évidemment qu'il soit apte physiquement pour disputer la Coupe du Monde, enfin voir Marco Reus dans un grand tournoi, parce que quel joueur.
Magnifique. On est bon David ? On est allé au bout.
Ça va, je t'ai pas trop coupé, t'as pu dire tout ce que tu voulais dire.
Ça va, t'as été très sympa avec lui.
Très bien, ouf.
Alors, juste avant la vie tranchée de Philippe Auclair en Angleterre, il y a pas mal de messages sur le hashtag RMC Live qui nous demandent, mais allez-y, demandez à vos drôles de dames, elles sont avec vous. Qu'aurait donné le fameux like de Meunier, donc on est dans nos petites affaires françaises là. Hein. Meunier qui like le tifo de l'OM et donc d'un
donc
club
à Philippe,
rival.
Tu demandes un mec d'Arsenal qui fait ça sur un tifo de Tottenham.
C'est impensable chez vous un truc qu'il y a eu un exemple de la sorte qui vous vient comme ça?
Non.
Philippe, non? C'est impossible.
J'ai pas d'exemple qui vienne, je sais pas quelle serait la réaction, je n'ai pas d'exemple qui me vienne, non, à l'esprit.
D'accord, oui, parce que la question
Fred, un mec du Real qui fait ça sur un mec du Barça?
Oh non, ça serait très mal vu, mais ça me dit rien là. Ça me dit rien. Il y avait une histoire, alors ça n'a rien à voir, c'est que Isco était en train de faire un barbecue l'année dernière avec des copains, et il y avait un paquet de chips avec l'écusson du Barça, ça avait fait scandale.
Ah bah bien sûr, évidemment.
Tu sais, c'est des chips.
Le problème, c'est pas le barbecue ni les chips, c'est que ce soit du Barça.
Les chips,
c'est parce qu'on voyait, parce que sur un coin, mais tu vois une table quand tu fais un barbecue avec le bordel et tout, il y avait un petit paquet de chips, et puis il y avait c'est des chips, tu vois.
Moi, je dirais même, ça doit aller plus loin. Le supporter du Real peut pas manger des chips Lay's parce que Messi fait la pub.
Peut-être
Mais en Allemagne, Dortmund, pareil, en Italie, évidemment.
Oui, bien sûr.
La saison dernière, un joueur de l'Inter était allé avec ses anciens coéquipiers avec des Juve Barcelone. Il s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux parce qu'il était au Juventus Stadium, même si apparemment il était un peu plus pour Barcelone, mais il a fallu que Icardi prenne sa défense, sinon les supporters de l'Inter l'avaient tué. Voilà. Et la seule rivalité, c'est Inter-Juve.
Par contre, il y a un truc quand on parle de qui, voilà, parce que pas mal de gens sur Twitter m'ont posé la question et ont posé aux différentes drôles de dames. Est-ce que ce qui se passe entre les présidents de clubs français sur Twitter, ce serait possible en Espagne? Sur Twitter, j'ai jamais vu ça. Je vois pas le président de l'Atlético, du Real ou de Barça faire ça.
Très bien, messieurs, on y va, on enchaîne avec l'Angleterre.
Ou d'un certain club de rugby que je ne citerai pas, que j'ai pas besoin de citer.
Eh ben, ne le cite pas. Jingle, au clair, on y va.
Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également?
Alors Philippe,
absolument.
Avis tranché sur Manchester City.
Oui, on va faire vite parce qu'il y a une énorme actu en Angleterre ce week-end. Mais l'avis tranché, c'est à la suite de ce que j'ai vu au London Stadium, qui au passage est le plus laid stade de la planète, le stade que vous devez éviter, le club où il ne faut pas aller. J'ai vu une équipe de Manchester City qui m'a de nouveau impressionné énormément, qui m'a impressionné surtout par sa concentration, par le fait qu'il n'y avait absolument aucun relâchement dans l'effort pour aller chercher des points, des buts, battre tous les records possibles imaginables, concentration énorme. Dans les 10 dernières minutes, tu voyais des joueurs qui devraient se préserver peut-être en vue de la Coupe du Monde, puisque la plupart y seront, et qui faisaient des sprints de 40 mètres pour aller récupérer le ballon alors qu'ils menaient 4-4 buts à 1. Et ce que ça m'indique, quant à moi, c'est que ce Manchester City, à mon avis, est parti pour une phase d'hégémonie en Angleterre.
Ah, carrément, ce qui est très rare, ces dernières années.
Ce qui est rarissime, parce que tu n'as pas eu aucune équipe n'a été championne 2 années de suite depuis Manchester United en 2008-2009. On a toujours eu des champions différents chaque saison.
D'accord.
Donc, mais là, ce que je vois en ce moment, et l'attitude que je vois dans le camp de Manchester City, et également l'attitude des adversaires de Manchester City, j'ai l'impression presque une espèce de résignation déjà chez beaucoup.
Dis-moi une question par rapport à ton avis. Est-ce que
Parce que Guardiola, ça va quand même lui tenir à cœur, maintenant qu'il a été champion. Est-ce qu'une implication, une concentration plus grande sur la Ligue des Champions qu'il vient de rater deux années de suite par rapport aux ambitions du club, je veux dire, est-ce que ça pourrait pas l'éloigner un petit peu justement de l'objectif championnat?
Non, je crois qu'il est dans une mentalité Eddie Merckx cannibale où il veut tout goinfrer. Et il veut faire, je pense.
Mais il pourra pas continuer à le faire en faisant tout le temps jouer les mêmes, quoi.
Non, ils vont se renforcer cet été, pas énormément.
Encore
oui, un ou deux joueurs, notamment un joueur, un certain Weigl, je pense, qui devrait arriver de Bundesliga.
Ah, il vient pas au PSG, lui?
Bah, a priori, si jamais il doit choisir entre le PSG et...
Ouais, mais s'il vient avec Tuchel, qui le connaît bien, il va venir.
Ah, ça, c'est autre chose, c'est possible, en effet. C'est possible, en effet, mais c'est une des cibles évidentes de Manchester City. Ouais.
Je crois que l'esthétique de ce joueur, c'est pas étonnant.
Oui, et je pense quant à moi, si tu veux, qu'il veut continuer la domination sur le championnat d'Angleterre, et il veut également lancer une période d'hégémonie qui ressemble à ce qu'il a fait à Barcelone entre 2008 et 2011. C'est Guardiola, hein, je veux dire, il est dans l'excès, c'est sa façon de continuer. Et je te dirais une chose, c'est que perversement, le fait que ça n'ait pas marché en Ligue des Champions cette année, l'année dernière, il avait hérité d'une équipe qui n'était pas la sienne, ça peut se comprendre. Cette année, l'échec qu'il y a eu face à Liverpool, à mon avis, c'est ce qui va le persuader de rester plus longtemps. Parce que tu sais qu'il n'a plus qu'une seule année sur son contrat. Hein. Mm-hmm. Et à mon avis, il va prolonger jusqu'en 2020.
Ah oui.
Et on est parti, à mon avis, en Angleterre au moins, pour une phase de domination de Manchester City. C'est l'état d'esprit que j'ai vu dans cette équipe depuis qu'elle a gagné le titre. Aucun relâchement de la part du club, du staff, des joueurs, t'as l'impression ce qu'on appelle la tunnel vision, la vision du tunnel.
Oui.
Et ils sont partis pour continuer là-dedans et ça flanque les jetons à pas mal de gens en Angleterre parmi les rivaux.
Alors dans l'actu, pas mal de choses effectivement.
Beaucoup
d'actu, ouais. Le beau geste quand même pour Arsène Wenger.
Oui, alors Arsène Wenger a dit très justement, c'est le genre de geste qu'on fait, on montre qu'on m'aime beaucoup lorsqu'on ne me craint plus. Mais c'est vrai que le geste était magnifique.
C'est pas faux.
Et j'ai trouvé surtout que la façon dont ça avait été fait par Manchester United, sans en rajouter, le fait que ça a été fait sans emphase, sans hyperbole, sans hype, etc. Personne n'avait été prévenu. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de fanfare, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas de haie d'honneur.
Ouais, c'était chouette.
C'était juste... tu avais trois même très grands entraîneurs.
Oui, voilà, on peut rappeler ce qui s'est passé. Donc Ferguson, Mourinho...
Ah ben Wenger était au courant de rien. Il est arrivé, il a été salué par Mourinho parce que quand tu sors du tunnel des vestiaires à United, tu dois longer l'une des tribunes. Et quand il a longé l'une de ces tribunes, il est passé devant la zone technique de Mourinho, qui l'a salué, salut très amical, grand sourire, et Mourinho qui lui a fait signe, ben écoute, viens là. Et ils sont allés sur la ligne médiane où est venu également Sir Alex Ferguson avec une coupe, un vase en argent qui est très simplement écrit de la part de Sir Alex Ferguson, de la part de Manchester United, Alex Ferguson et José Mourinho pour Arsène Wenger en remerciement, en hommage à tout ce qu'il a accompli avec Arsenal. C'était quand même très très
formidable.
Classe.
Formidable, moi je trouve ça super très classe. On parlait tout à l'heure des rivalités qui doivent exister.
Qui ont existé
entre ces deux clubs, même si elle était conjoncturelle et peut-être pas historique.
Et puis entre les hommes aussi.
Mais respect, on se serre la main et je trouve ça formidable. Et pourtant, entre Mourinho et Wenger, putain, Dieu sait qu'ils se sont mis sur la gueule.
Très bien. Entre Ferguson et Wenger, maintenant c'est une amitié. C'est même plus de la complicité, amitié qui s'est liée entre les deux hommes. Et puis derrière, bon, Arsenal n'a pas été ridicule, on en reparlera peut-être avant le match contre l'Atlético.
Ouais. Puel, lâché par ses joueurs.
Ah, c'est fini.
Oui, absolument. Et pour moi, c'est une reprise de ce qu'on a vu avec Claudio Ranieri et ce qu'on a vu avec Craig Shakespeare. Et ça me fait me poser des questions sur la façon dont ce club est géré. À savoir que dès qu'un entraîneur atteint un objectif à Leicester, dans le cas de Ranieri, c'était un énorme objectif qui était le championnat, bien évidemment. Dans le cas de Craig Shakespeare, c'était les quarts de finale, c'était le maintien et les quarts de finale de la Ligue des Champions, ce qui avait été acquis. Et dans le cas de Claude Puel, n'oublions pas que lorsqu'il arrive au club, juste avant qu'il arrive au club, le club est 18e et premier relégable. Mm-hmm. C'est le maintien. Il assure le maintien en l'espace de quelques semaines. Dès que c'est fait, basta. Mm. Et les joueurs, c'est un problème que tu vois dans des clubs où le vestiaire change très peu. Et les entraîneurs changent beaucoup. C'est les joueurs qui font la loi. Alors donc, s'ils n'aiment pas le fait qu'un tel soit laissé sur le banc de touche, qu'il y ait trop de rotation, que les exercices soient pas ceci, soit cela, du coup, Puel, à mon avis, oui, tout simplement, va faire les frais de l'opération et il ne va pas durer très très longtemps. Ce qui ne veut pas absolument pas dire qu'il aura échoué, puisqu'il aura permis à ce club de rester en première ligue.
Dans quelle forme est Liverpool?
Alors écoute, impossible à savoir au vu des matchs de championnat parce que Liverpool est un petit peu en roue libre et on se préserve en vue du match contre contre la Roma qu'on veut surtout pas prendre à la légère. Hein. Dieu sait que ce qui s'est passé pour Barcelone suffirait à rendre les gens extrêmement prudents. La chose la plus importante pour Liverpool, c'est le fait qu'on a une nouvelle bisbille et l'ortho, on en a parlé un petit peu avant l'émission, entre Željko Buvac. Qui est quand même adjoint, le super adjoint même de Jurgen Klopp avec lequel ils sont ensemble depuis du temps où ils étaient à Mayence.
Depuis qu'ils étaient joueurs à Mayence.
Ouais, ouais. Depuis qu'ils étaient à Mayence et ils ont eu des problèmes de temps à autre l'un avec l'autre des querelles, même des disputes, des fâcheries de vieux couples. Mais en l'occurrence là jusqu'à la fin de la saison, on dit que c'est pour des raisons personnelles, c'est peut-être pas évident, Buvac ne sera plus avec Jurgen Klopp.
Ah ouais. Alors,
oui.
Et mais on sait ce qui s'est passé exactement. C'est
En fait, Buvac.
Il y a des petites rumeurs croustillantes.
Alors c'est pas croustillant malheureusement. Oh. Enfin, je sais pas si c'est malheureusement ou pas, mais Buvac est très très vexé que dans les derniers temps, Klopp s'appuie davantage sur des adjoints, d'autres adjoints comme par exemple son vidéo-analyste. Ça fait vraiment. Je suis d'accord avec Philippe sur le côté vieux couple parce que il communique moins. C'est comme si un peu hiérarchiquement, il était descendu de premier adjoint à deuxième ou troisième adjoint.
D'accord.
Et visiblement, ça lui plaît pas du tout.
Il avait pas la grosse tête, ce Buvac. Ok, je l'ai pas.
Un jeu de mots.
Je l'ai pas.
Buvar.
Moi, je l'ai pas.
Mais il est en forme ce soir.
Il
a envie de faire des blagues.
Bon, et un mot de l'Écosse, Philippe Vitré, pour finir.
Oui, deux choses en Écosse. Le Celtic qui est champion pour cette fois consécutive avec le doublé de Hudson Edouard dans le match qui donne le titre contre les Rangers. C'est un super match d'un joueur que j'adore qui est Olivier Ntcham. Donc trois Frenchies qui sont champions d'Écosse, hein, puisqu'il faut ajouter Moussa Dembélé bien évidemment. Et puis c'est pas encore fait. Je ne pense pas que ce soit encore fait. Mais la nouvelle la plus surprenante du week-end pour moi, c'est Steven Gerrard qui est sur le point de devenir entraîneur des Rangers. On en reparlera parce que franchement, c'est un choix que je trouve hallucinant. Mais bon, dans quel pétrin il va aller se fourrer, ça c'est une autre histoire.
Et pour terminer sur Liverpool, en 10 secondes, j'aimerais dire quand même, parce que c'est important de le dire aussi parfois, au début de la saison, Philippe avait une réaction qui, avec le recul, s'avère très intelligente, de dire que Liverpool avait tout à fait le style pour briller en Ligue des Champions, peut-être plus qu'en championnat. Nous le constatons. Merci.
Bravo, Philippe.
Merci, Daniel.
Ah, tu l'avais pas vu arriver ce compliment, hein, Philippe. Eh ben voilà, ça tombe.
Ça n'arrive jamais. Donc
il n'en est que
tu peux pas le confirmer.
Il n'en est que plus délicieux et à accepter et à prendre et à mettre de côté. Et quand j'aurai très froid dans les grandes longues soirées d'hiver, je le ressentirai comme un doudou.
Magnifique.
Non, surtout que je vois souvent sur les réseaux sociaux qu'on reproche des trucs à Philippe qui sont d'une stupidité sans nom, qu'on transforme parfois des mots qu'il a dit, mais malheureusement, c'est très difficile de mettre des nuances à notre époque. Oui,
effectivement, c'est terrible. Le monde est terrible. Le monde va en couille.
Non, le monde n'est pas terrible. Tu chiales si t'as envie, mais parfois il y a des choses importantes à dire, Jean-Louis, malgré ton petit ton bobo, plein de dérision là.
Et parce que c'est très à la mode.
Et ton obsession de l'horloge.
Là, toi, si tu continues avec ce petit ton, tu vas finir au quotidien, toi.
Mais on rien à voir.
Vas-y,
c'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie.
C'est le compliment était parfait, mais après la sortie sur les réseaux sociaux, non.
On aurait pu. Que je vois bien Philippe qui parfois essaye de mettre des nuances et malheureusement il n'y arrive pas.
Oui, non mais je sais.
Enfin, il n'y arrive pas.
Non, mais le couplet de il n'y a plus de nuances possibles dans la société aujourd'hui.
Ça c'est vrai.
Mais je sais, mais on l'a déjà entendu 100 fois celui-là. Donc voilà. Non,
mais et moi je pense à Simonet qui a plus beaucoup de temps.
Allez, Simonet.
Mais il aurait laissé finir Daniel, c'était fini depuis une minute.
Ah, allez, c'était ma faute.
Ben voilà, exactement, c'est ta faute.
Fred, tu voulais dire un mot quand même?
Non, il veut pas.
Parce que je sais qu'imaginer Daniel en doudou, en peluche et truc, ça fait drôle quoi.
Dans un instant, la vie tranchée de Simonet sur le championnat qui était passionnant jusqu'à ce week-end.
C'est le super football show, l'afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot, nos drôles de dames sont là, Fred Hermel, Philippe Auclair, David Lorto et Simone Rovera, Jingle Rovera.
Comté avec Deschamps, avec Zidane.
On dit Pancelotto, nous.
Il est très bien ce jingle.
Excellent, le fameux Zidane.
C'est magnifique.
Alors, Simone, c'était le championnat le plus passionnant jusqu'à ce week-end.
Mais c'est encore les championnats les plus passionnants, c'est les plus beaux, c'est un peu moins ouvert. Mais ce qu'on a vécu ce week-end a été, à mon avis, vraiment les symboles, la métaphore de toute une saison extraordinaire et incroyable. Et il faut partir sur Juventus Inter, sur Inter Juve. Par contre, c'est pas Juventus Inter, parce que on a vécu vraiment toutes les émotions de la saison en 90 minutes. Avec aussi une surplus de polémiques et des nuances qui vont continuer par les prochains jours, semaines, voire des années.
Des débats sur le jeu intéressants entre Sarri et Allegri.
Des débats sur le jeu.
Il y a des choses fantastiques, c'est vrai, cette saison.
Des débats sur les joueurs, sur l'arbitrage, sur plein de choses, sur le coaching. C'était vraiment... Et tout ça sur ce match et aussi sur la saison.
Mais ce interview était fou.
Pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'était vraiment les meilleurs matchs de la saison, à niveau d'engagement, à niveau de rebondissement, à niveau de l'intensité qui a mis l'Inter dans les jeux.
Parce que l'arbitrage.
Il faut parler aussi de l'arbitrage parce que comme c'est mois-ci, en avril 2018, on vient de fêter les 20 ans du fameux contact entre Juliano et Ronaldo du 98, on en parle encore, ça fait 20 ans. Je pense que c'est interviewé, on va parler peut-être pas dans 20 ans, mais dans 15, 10 sûrement, parce qu'il y a eu plein des épisodes d'un arbitrage cauchemardesque de Monsieur Orsato, qui quand même sera un des hommes du VAR à la Coupe du Monde, qui a eu besoin plusieurs fois de l'aide du VAR pour choisir ce qu'il n'était pas capable de voir et de choisir. Et sur la décision, je pense, la plus importante, où le VAR n'a pas pu l'aider, parce que c'est un deuxième carton jaune qui devait être assigné à Miralem Pjanic, il n'a pas vu, il n'a pas cru que c'était un deuxième jaune. Donc, c'est aussi dans les faits des jeux arbitrales qui a été extraordinaire ces matchs, où l'Inter est arrivé à mener.
Donc, malgré la VAR, il y a des polémiques alors quand même?
Il y a des polémiques.
Ah, c'est étonnant.
Parce que la VAR n'est pas parfaite.
C'est... Ah, d'accord. Bah, je pensais, moi, parce que comme on était dans l'imperfection.
Non.
Donc, on avance dans la perfection, mais on n'y est pas encore, c'est ça.
On
Comment se niquer son quart d'heure à la radio? T'es fou, Simonet.
Vas-y, continue.
Il y a des mots
continue.
Pas prononcés si tu veux pouvoir finir ton
non,
truc.
Non, t'as raison, mais la VAR, l'arbitrage font partie du spectacle de cette année, dans les bien et dans les mal, et on fait partie de ces interviews où, pour revenir au match, l'Inter a fait quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il avait amené 2-1 jusqu'à la 87e minute. Imaginez les scénarios, la Juve était
10,
en train de perdre.
À 10, précise bien, à 10.
À 10 depuis la 15e minute pour les rouges de Vecino, un rouge là aussi décidé par la vidéo. Et l'Inter, à 3 minutes de la fin de ce match, était en train de gagner presque, de faire un gros pas vers la Ligue des Champions, de faire perdre le titre à la Juve, parce que le lendemain, il y avait Fiorentina Naples, un match que Naples aurait pu jouer avec une mentalité incroyable, l'esprit guerrier.
Et là, ils ont pris une tarte.
Et le perd la veille, en fait, ce minute, match. Encore une fois, la Juve était capable de tout changer. J'ai vu une date incroyable, à mon avis. La Juve a eu 7 minutes 53 des possessions de balles dans les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps. Elle a eu 8 minutes et 0-8 dans les 15 dernières minutes. C'est-à-dire, l'Inter n'a pas touché les ballons. 2 minutes 45 contre 8 minutes et 0-8 dans les 15 dernières minutes. La Juventus, profitant de l'Inter qui était faible aussi pour avoir joué à 10, a renversé totalement dans les 3 dernières minutes.
Ouais.
Et derrière, les scénarios parfaits pour la Juve.
Ils étaient dans le trou à 2-1, la Juve.
La Juve était dans le trou.
Les joueurs semblaient dans le trou. Les gens, il y a eu plein d'émotions complètement contradictoires autour de ce match.
Moi, j'ai vu plein des supporters de la Juve qui est un peu bas peut-être pour penser de tirer la machine sur Naples. Ils m'ont dit, on a perdu le titre. On est en train de perdre le titre. Même
tu rigoles. Moi, dans ma famille, il y a beaucoup de Juventino qui m'envoyaient des messages pendant le match et qui disaient, on est cramé, ouais, on n'y arrivera pas à 2-1, mais déjà avant le match, très pessimiste. Genre, on est cuit depuis la défaite à Madrid, est dans le trou, et pendant le match, ouais, Allegri, ça va plus. Il refaisait le monde pendant le match. À 2-1, écroulé, regarde à 10, c'est ce qui nous arrive d'où, et à la fin, les mecs, ils savaient plus quoi dire.
Ah ouais,
quoi, c'était, ça défiait toute l'interprétation, quoi. Tu vois,
il y a eu un passage qui, à mon avis, change aussi l'histoire du match. C'est les changements. Parce qu'on a parlé énormément du changement de Madrid, de Cavani pour Meunier. Et qu'est-ce que fait Spalletti? Sort Icardi. Avant, il veut sortir Candreva veut pas sortir. Il demande à Perisic. Perisic veut pas sortir. Icardi, en tant que capitaine, pour sortir de l'impasse, dit, OK, c'est moi qui sors.
Ah ouais.
Il fait rentrer Santon.
Remplacé par Santon, un défenseur.
qui passe à gauche, les défenseurs qui étaient à gauche passent à droite, il fait un changement des systèmes quand c'est le passe à
gauche. Ça, c'est jamais bon de chambouler une défense comme ça dans les dernières.
Sur les deux buts qui marquent la Juve, il y a deux erreurs des Saint-Ouen. Donc, erreur.
Le dernier, le coup franc est super bien tiré, mais Higuain se retrouve là à mettre la tête.
Higuain est toute seule.
Qui n'avait pas marqué depuis combien de temps, Higuain?
716 minutes. Imaginez.
Imaginez le nombre d'histoires qu'il y a juste autour de cette
ce match. Et les lendemains, pour terminer, je sais pas si on a les temps.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est l'héros de Naples, Koulibaly, qui après 6 minutes de jeu,
c'est vrai,
fait exclure
c'est vrai.
Pour un rouge sur Simeone. Et là aussi, la vidéo rentre pour Giovanni. Qui marque un triplé face au Napoli. Et là aussi,
il a failli venir à l'OM, lui d'ailleurs. Enfin, il était en contact l'été dernier.
C'était
il avait été approché et tout.
La Fiorentina a mis 25 millions, si je ne me trompe pas. Donc,
donc c'est devenu un peu cher.
Ils ont misé beaucoup. Et donc, imaginez un peu.
C'est ça.
Une histoire un peu là, des pères en fils. 5 mai 2002, il y a Diego Pablo Simeone qui marque avec la Lazio contre l'Inter quand la Juve gagne ses titres historiques. Et là, c'est l'électrique.
Celui où il joue sous la flotte, le déluge, là, ce titre-là.
Non, c'est la fois que la Juve gagne à Udine et l'Inter perd à Roma face à la Lazio 4-2.
Et il faisait beau,
5 mai. Et c'est Simeone qui marque un but pour la Lazio contre l'Inter.
D'accord.
Et
je me demande si c'est
possible d'arrêter.
Et ces la Juve perd les titres les jours du déluge. Il joue à Pérouse et c'est la Lazio qui gagne les titres.
Ah oui, c'est en 2000 ça.
C'est voilà.
Oui, d'accord, ok, oui.
Et donc c'est les fils de Simeone après que les pères avaient déjà donné un titre à la Juve qui va presque sûrement donner un titre à la Juve parce que maintenant trois matchs à jouer, deux à domicile face à Bologne et Verona. Et avec deux victoires à domicile, la Juve pourra même perdre face à la Roma et sera championne. Sur Naples, je pense que toute cette semaine leur a fait mal. On s'est douté, est-ce que va faire mal cet enthousiasme, la semaine qu'ils vont vivre. Je trouve aussi qu'ils ont été un peu méprisants sur certaines choses après la victoire face à la Juve. J'avais pas eu le temps d'en parler.
Oui, ça, je sais pas, ça.
Il y avait une sortie en zone mixte où ils signaient, en question d'un journaliste, la Juve a joué ça. Vous voulez jouer ça comme une finale de Ligue des Champions, il a perdu, il signe et dit oui, mais ils ont l'habitude de perdre les finales.
Ah ouais.
Toi qui t'as rien gagné, arrête de dire ça, même si
dis-le une fois que t'as gagné.
Pour une fois que tu gagnes un match, qui veut encore rien dire. Donc je pense qu'il y a une ambiance magnifique de partie des supporters, mais peut-être Naples n'était pas prêt à avoir cet enthousiasme derrière et à gérer la pression. Ils ont craqué en 6 minutes après les matchs, ils n'ont rien fait.
Là, il peut rien se passer, Simone, maintenant.
Il pour rien.
4 points, 3 matchs.
Surtout 2 à domicile face à Bologne et Verona.
Non, 2 matchs
sera déjà.
3.
3 matchs.
Non, mais 2 à domicile très simple et les déplacements face à la Roma qui même, tu peux même perdre, mais après.
Ouais, tu peux, même si tu perds, on s'en fout, quoi.
Et je suis même pas sûr que Naples arrive à gagner tous ces matchs derrière. Dimanche,
je pense que là, ils ont pris un
jouent à domicile face à Torino. Ouais. Je suis pas sûr que Naples, si la Juve gagne samedi soir, je suis pas sûr que Naples arrive à gagner. Il y a beaucoup de possibilités
comment la Juve pourrait perdre contre Bologne à domicile.
Mais en 48 heures, même pas en 24 heures,
même Milan a réussi à gagner à Bologne.
On a vécu un week-end extraordinaire avec des changements, vraiment des situations, des rebondissements, qui est un peu la photo exacte d'une saison extraordinaire qu'on a eue cette année.
En tout cas, la Juve, ils sont pas fatigués de gagner, parce que ça va être leur septième de suite.
Septième de suite.
Et quand je parle, donc, aux gens, à mes proches, pour la Juve, quand je les voyais, mais catastrophés sur cette fin de saison, je dis, ouais, bon, si vous êtes pas champion, que c'est Naples, ça fait 6, hein. Et je descendais de la lune, je leur disais, mais ils sont dans la foutre. Ben, on gagne un septième de suite, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Je dis, ok, excusez-moi les mecs.
On va s'arrêter là.
Pardon.
On est au bout. Merci, Simone. Merci les drôles de dames.
Merci
évidemment,
à toi, Louis.
On retrouve David et Fred demain après Real Bayern en Ligue des Champions.
Merci, Pierre. Je te donne le dernier numéro de France Touffe, il est très bon.
Très
bon numéro.
Et ben, je vais
avec des articles, évidemment, comme d'hab.
Chaque cadeau de ta part, Daniel, me fait plaisir. Bonne nuit à tous. L'after revient demain. Allez, après.
Les gars. Donc, c'est la soirée des compliments.
La demi-ligue des champions.
Méfiez-vous, messieurs.
Ouais.
Allez, ciao.
RMC, le super football show, l'after foot.